Et nous donc passons maintenant à la dernière communication de cette matinée, qui nous sera présentée par Jean Vinant, professeur à l'Université de Liège. Donc Jean Vinant, pour le présenter en quelques mots, est un spécialiste internationalement reconnu de la linguistique et de la littérature égyptienne. Donc il a publié plusieurs ouvrages sur le voyage d'Ounamon, sur des études de néo-égyptiens, une grammaire de référence en collaboration avec Michel Malaise, que tous les étudiants égyptologues ont pratiqué, un ouvrage sur temps et aspects en ancien égyptien, et plus récemment, il a consacré quelques ouvrages de synthèse sur les hiéroglyphes égyptiens, ou la réception des hiéroglyphes de l'Antiquité au temps moderne. Et aujourd'hui, il va nous présenter une communication intitulée « Horapollon ou la fin d'un parcours ».
Merci Laurent pour cette présentation généreuse, comme à ton accoutumée. Merci aussi à la chaire du Collège de France pour l'organisation de ce colloque. Et donc, j'avais quelques craintes au début de cette journée, voyant qu'il y avait 4 égyptologues inscrits au programme de la matinée, et comme nous ne nous étions pas concertés, que vous soyez peut-être soumis à entendre 4 fois la même chose, mais je suis rassuré. Nous avons à nouveau, sans nous concerter, choisi des angles d'attaque assez différents, sans que nous n'ayons reçu des contraintes ou des consignes particulières de la part des organisateurs. Alors, la communication que je vais vous présenter aujourd'hui est un peu au croisement de deux intérêts, un intérêt ancien pour la langue et les écritures, mais un intérêt un peu plus récent aussi pour la figure du père jésuite Athanase Kircher, qui a peut-être un peu tendance à me vampiriser ces 4 dernières années. Et donc, je m'intéresse un peu à ce personnage qui est un peu au bout du parcours. Horapollon, j'ai intitulé cette communication à la fin d'un parcours, et j'insiste vraiment sur le « un parcours », parce que c'était un parcours possible. Mais il est aussi, et ça a été rappelé par Jean-Luc Fournet lors de son introduction, c'est aussi le début d'un autre parcours, dont, un peu à sa manière, le père Athanase Kircher signale l'achèvement, et en tout cas un certain aboutissement, parce qu'après ce qu'il avait réalisé dans ces quelques 4500 pages en latin dévolues à la culture, à la langue, mais surtout à l'écriture égyptienne, je ne pense pas que dans la voie qu'il avait choisie, on pouvait aller plus loin. Ce que je vous propose ici, c'est une lecture un peu sémiotique, si vous voulez, de l'écriture égyptienne. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est comment, à partir d'un système dont Andreas vous a retracé ce matin les grandes lignes de fonctionnement, on pouvait avoir en quelque sorte des cheminements possibles. Et ce qui est remarquable, c'est de voir que les deux cheminements, les deux déviations, si vous voulez, on pourrait même appeler ça des hybridations possibles, ont été, dans la pratique, tous les deux empruntés. Et donc, il y a un chemin que j'appellerais vers le phonétisme, ou si on voulait déjà prendre un peu un langage plus sémiotique, une voie où le signe iconique va être démotivé. C'est en quelque sorte le pôle linguistique, si vous voulez, de cette aventure, de ce cheminement de l'écriture hiéroglyphique. Et puis, il y a un autre chemin qui, lui, va vers l'iconisme, qui est une sorte de remotivation dans certains cas, dans d'autres cas, de surmotivation du signe iconique. Et vous aurez évidemment reconnu là un autre pôle que l'on pourrait qualifier de pôle visuel. Il faut également, je crois, faire la part des choses, même si c'est très difficile de découper la réalité avec un scalpel, vous vous en rendez bien compte, et qu'on ne peut pas tracer des frontières. Mais il y a très certainement, et on y a déjà fait allusion ce matin, une évolution proprement endogène, donc interne à la culture égyptienne. Mais il y a aussi une sorte d'hybridation due à une influence externe. On n'en a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui. Et il y a quand même, il faut le signaler pour les derniers siècles de l'histoire égyptienne dans l'Antiquité, une interprétatio greca dont il faudra quand même bien dire un mot. Alors ça, ce n'est pas pour vous effrayer, mais les sémioticiens aiment bien de temps en temps faire des schémas un peu complexes, mais ne vous effrayez pas, l'essentiel de ma communication pourra en quelque sorte se résumer à ce slide. Donc, à partir d'un... ça fonctionne, je ne sais pas. Oui, c'est en haut, mais c'est faiblard. Hein, voilà. Vous voyez les petits points ? Oui. Donc, voilà, à partir d'un signe idéal, si vous voulez, nous allons donc explorer un peu rapidement la voie vers le phonétisme. La voie, alors, vers l'iconisme nous retiendra davantage, puisque c'est dans cette voie-là que s'inscrit la démarche aurapollinienne. Alors, vous voyez que pour chaque pôle, j'ai distingué un certain nombre de réalisations, et c'est cela que je vous propose maintenant de d'écrire rapidement avec vous, de passer en revue avec vous, et nous reviendrons à chaque fois à ce schéma initial. Donc, la première voie, donc nous sommes sur la partie gauche du schéma, c'est ce que j'ai appelé la voie vers le phonétisme. Il y a là un développement proprement interne à la culture égyptienne qui peut se réaliser dans ce qu'on peut appeler une tendance à l'alphabétisme et une autre tendance que j'ai appelée la cryptonymie, mais ça c'est simplement pour faire pendant à la cryptographie. Et bien sûr, on peut être en désaccord sur l'emploi des termes, mais il faut parfois conserver un peu le jargon qui est reçu, autrement on ne se comprend plus très bien. Il y a après tout en égyptologie des tas d'expressions que nous employons. Le pseudo-participe, après tout, ça ne veut pas dire grand-chose. Et le pronom dépendant, ça ne veut pas dire beaucoup plus, puisqu'on ferait mieux peut-être de parler de pronom clitique. Mais enfin, peu importe. Et puis, je l'ai signalé dès l'entrée, une hybridation alors qui va vers un courant que j'appellerais plutôt l'essentialisme. Alors, si on veut regarder ça un peu en termes sémiotiques, de quoi parle-t-on ? Quand vous prenez un mot écrit en écriture hiéroglyphique, vous avez deux pans qui sont très très importants. Et Andreas a signalé ce matin à quel point les deux niveaux sont complémentaires pour la bonne compréhension d'écriture hiéroglyphique. C'est un niveau proprement sémantique et un niveau de réalisation phonétique. Bien sûr, il y a des signes qui sont plutôt spécialisés dans l'un ou l'autre niveau, mais le signe hiéroglyphique en tant qu'ensemble de signes pour écrire un mot comprend normalement ces deux composantes. Et dans la voie vers l'alphabétisme, que se passe-t-il ? Ben, on va perdre le premier niveau pour attacher à un signe simplement un signifié phonétique. Alors, ce genre de choses, ça existe en fait dès les premières manifestations de l'écriture hiéroglyphique. En effet, avec un certain nombre de mots qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le vocabulaire fermé, c'est-à-dire un vocabulaire qui est plutôt en relation avec des réalités grammaticales, que ce soit des prépositions ou des pronoms, il est tout à fait courant d'écrire les mots avec des signes unilitaires. C'est en quelque sorte les signes alphabétiques de l'égyptien, c'est celui avec lequel vous allez vous faire inscrire votre prénom quand vous allez en Égypte dans un joli cartouche, ce qui a un double effet, puisque grâce à ça, vous accédez à un statut royal aussi, soit dit entre parenthèses. Mais ça peut aussi concerner un vocabulaire tout à fait ouvert, ainsi des mots aussi fréquents que le nom, on a parlé du nom tout à l'heure, Ren en égyptien, est écrit tout à fait couramment avec deux unilitaires et remarqué sans classificateur, donc sans déterminatif, et un verbe aussi fréquent que le verbe jet est normalement lui aussi écrit, comme vous l'avez à l'écran, uniquement avec des unilitaires. Mais dans certains textes, on peut avoir alors ce que j'appellerais une oblitération du caractère iconique du signe hiéroglyphique, c'est-à-dire que des mots qui sont normalement écrits avec des signes complexes, que ce soit généralement des logogrammes plurilitaires, c'est-à-dire qui se réalisent avec plusieurs consonnes radicales, peuvent parfois, et c'est une démotivation donc du signe iconique, être écrits en unilitaire. Et vous avez ici donc un exemple avec le verbe kheper, advenir, se manifester, qui peut, dans certains textes, déjà dans les textes des pyramides, être écrit comme vous l'avez à l'écran, avec uniquement trois unilitaires. C'est un phénomène un peu semblable qui se manifestera plus tard au Nouvel Empire avec l'écriture syllabique, qui est essentiellement fondée sur un rendu linguistique pour l'écriture. Ça concerne bien sûr les mots d'emprunt, essentiellement les mots empruntés aux sémitiques, mais ça concerne aussi, il faut le souligner, des mots proprement égyptiens, mais qui étaient restés jusque-là en dehors de la tradition écrite. Alors je vous en donne comme ça quelques-uns. Certains sont anciens, comme Utchès, mais d'autres plus récents, comme Dégès ou Guénès. Et vous voyez, ils sont des mots proprement égyptiens, ce ne sont pas des mots d'emprunt, et ils sont écrits dans cette écriture syllabique qui a essentiellement pour fonction de rendre le niveau phonétique, et il y a, là il faut le souligner, la présence des classificateurs sémantiques. Les textes démotiques, notamment dans la période la plus récente, sont parfois écrits en écriture quasiment alphabétique, et alors on y est revenu ce matin, il y a alors les listes de signes. Il faut peut-être, Joachim ne sera pas d'accord, dater un tout petit peu alors plus tard que ce que vous avez à l'écran, les papyrus du 1er ou du 2e siècle de notre ère, mais je ne reviens pas puisque cela a été traité. Deuxième possibilité, toujours dans cette branche vers le pôle linguistique, ce que j'ai appelé la cryptonymie. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de mettre en rapport deux signifiants qui sont assez proches, simplement pour le rendu phonétique. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va alors opérer un transfert à partir du signifié du deuxième signifiant, et on va projeter ce signifié sur le signifié du premier signifiant. C'est donc une rupture manifeste du caractère univoque, arbitraire, du signe linguistique, et vous en avez évidemment les plus importantes réalisations, par exemple dans les récits étiologiques, c'est fondé sur ce principe-là. Donc, dès les Coffin Text, par exemple, quand vous avez un propos, mais je n'ai pas le temps de le développer ici, quand on demande alors à Horus comment il le voit, il s'agit de donner l'étymologie du mot oryx qui se dit en égyptien mahedj, et Horus, à une question qui lui est posée, répond: je le vois extrêmement ou vraiment très très blanc, mais queer ma'ef hedge hedge, et le texte continue en disant: et de là naquit l'oryx. Il y a aussi des étymologies non linguistiques ou linguistiques qui sont fondées sur la paronomasie, les calembours et les jeux de mots, et cela permettra, cela a été souligné également par Joachim ce matin, les étymologies populaires ou tous les jeux de mots ou les calembours ne sont pas à proprement parler des jeux de mots, c'est pas fait pour s'amuser, en tout cas pas en première instance, mais ça a vraiment une fonction théologique et liturgique, puisque ce sont des homonymies proprement créatrices. Et je prends juste ici un extrait de quelque chose qui est bien connu, l'association qui est faite entre le mot qui désigne la population, les hommes, remetch, et le mot pleurer ou le mot larme, remout, en égyptien. Et les hommes sont considérés dans certains récits cosmogoniques comme étant le produit de la création des larmes du démiurge. Et donc dans ce passage, vous avez les hommes sont les larmes de mon œil, et vous verrez. Là, je m'adresse peut-être un peu plus aux égyptologues. J'ai reproduit le texte venant des Coffin Text, et vous voyez que la graphie de Remetch est un petit peu inhabituelle, puisque le M, qui normalement est absent de la graphie standard, est ici présent, et je crois que c'est pour souligner le parallélisme avec Remut. Donc, je passe assez rapidement. Vous retrouvez également ces associations fondées sur des parentés phonologiques dans les explications des rêves. Je vous donne ici un exemple tiré du Nouvel Empire, le papyrus Chester Beatty III, où vous voyez qu'on met en rapport le mot de l'âne, aat, avec le fait de grandir ou de s'agrandir. Le premier, donc l'âne, se disant aa, ici c'est le féminin aat, mais le t n'était déjà plus prononcé, avec le verbe fondé, c'est un causatif qui est fondé sur un verbe simple, aa, devenir grand, et saa, c'est s'agrandir devenir grand. On retrouve la même chose dans un autre passage que vous avez ici en bas, et où vous avez alors en plus une harmonie graphique, puisque le scribe a tenu en quelque sorte à lier son propos. Si un homme se voit découvrant lui-même son postérieur, c'est mauvais, il deviendra démuni à la fin, et vous voyez que il y a un jeu de paronomasie entre pechuifi, le postérieur, et démuni à la fin, er pechui. Il y a évidemment un jeu qui est fondé sur une assonance, mais vous avez aussi en quelque sorte un lien supérieur qui est établi par l'emploi des classificateurs. Ici, il s'agit de l'arrière-train du Lion, qui sert alors à lier aux deux premiers termes le terme kefa, se découvrir, et on peut lier alors le terme kefa par un lien alors là de synonymie avec le verbe nemek. Et on peut rapprocher un texte qui est beaucoup plus tardif, alors que celui d'Artémidore dans la clé des songes, et je reproduis ici la traduction de Festugère. L'aigle signifie aussi l'année présente, car son nom, quand on l'écrit, n'est rien d'autre que première année, puisque vous avez effectivement le alpha qui, dans l'écriture grecque, peut servir à écrire le chiffre 1, et puis alors vous avez ethos pour l'année. Donc c'est fondé là aussi sur un même jeu linguistique. L'essentialisme, ce que j'appelle ici l'essentialisme, et je le vois plutôt comme une hybridation, de quoi s'agit-il ? Ben, c'est d'associer un signifiant et un signifié linguistique à quelque chose qui est de extra-linguistique, qui est un concept, qui est une idée, et voir donc entre ces trois éléments un lien nécessaire. On peut retrouver quelques traces de cela en Égypte ancienne déjà, puisque la théorie du nom en Égypte ancienne, et je renvoie à un article de Pascal Vernus là-dessus, postule qu'il y a un lien nécessaire entre la manière dont on dénomme une chose et la chose elle-même. Et je renvoie par exemple à l'épithète, une des épithètes du démiurge bien connue, c'est aussi celui qui crée les noms, Kema Renou, mais c'est surtout dans des textes plus tardifs, comme le Corpus Hermétique, les Papyrus Magiques, ou dans des textes de philosophes affiliés à l'école néoplatonicienne, comme Jean Blic ou Proclos dans le commentaire au Cratyle, que l'on peut retrouver, je crois, les éléments les plus intéressants de cette hybridation du système. Alors, on n'a pas le temps ici, probablement, de lire tout. Je vais peut-être... On va peut-être lire ce texte de Jean Blic, bien connu dans la traduction ici du Persafray et de Second. Mais celui qui écoute, dis-tu, porte son attention sur le signifié, de sorte que la notion suffit, puisqu'elle demeure la même, quel que soit le nom employé. Non, la chose n'est pas. Donc, ça, c'est le texte auquel Jean Blic va répondre. Non, la chose n'est pas comme tu l'as supposé. En effet, si les noms étaient établis par convention, cela ne ferait aucune différence d'employer les uns pour les autres. Mais s'ils sont étroitement liés à la nature des êtres, les noms qui ressemblent davantage à cette nature sont aussi, je pense, plus agréables aux dieux. Il en résulte clairement que c'est à bon droit que la langue des peuples saints est préférée à celle des autres hommes. En effet, les noms, une fois traduits, ne conservent pas du tout le même sens, mais il y a des particularités dans chaque peuple qu'il est impossible de signifier au moyen de la langue d'un autre. Donc ce que Jean Blic veut dire ici, c'est poser en quelque sorte le problème de la possibilité de traduire. Mais on n'a pas le temps de développer ça ici. Je passe maintenant dans la partie droite du tableau, donc vers le pôle visuel. Donc là, un développement interne à nouveau, cryptographie, mais j'avais quand même pris la précaution de mettre des guillemets, et puis alors une hybridation externe qui est la voie proprement symbolique. Alors, quand on parle de cryptographie, c'est un mot, évidemment, un cover term, c'est une sorte de boîte noire dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses. Et donc, si on veut parler d'écriture énigmatique stricto sensu, c'est peut-être la partie inférieure du tableau, mais on pourrait faire aussi intervenir des jeux d'écriture qui portent, par exemple, sur le changement de classificateur. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, en quelque sorte, pour le changement de classificateur, d'au lieu d'avoir un signifiant qui est normalement associé à un mot, de faire intervenir un deuxième signifiant, un autre signifiant, qui va donc ajouter une connotation particulière. Je vais en donner quelques exemples. Dans l'écriture énigmatique à proprement parler, on peut garder un signe hiéroglyphique qui est bien connu, mais au lieu de l'utiliser dans sa signification habituelle, qui est donc le signifié 1, on peut lui donner une valeur inhabituelle. Et alors là, on peut aller vers des signifiés qui peuvent être multiples, 2, 3, 4, cela peut aller très loin. Mais il faut aussi faire intervenir ce que j'appellerais, alors là on sort de l'écriture à proprement parler, ce que j'appellerais des iconèmes, c'est-à-dire des signifiants proprement iconographiques qui peuvent, eux, bien sûr, donner lieu à une interprétation, à un signifié qui est proprement iconiques, mais qui peuvent aussi, dans certains cas, se prêter à une réalisation proprement linguistique, à donc un niveau phonologique qui leur est associé. Et c'est ce que d'aucuns ont appelé récemment de la poésie visuelle, mais on va en dire quelques mots tout à l'heure. Alors voici un exemple simple d'un changement, d'un jeu plutôt sur les classificateurs. Vous avez un terme fréquent qui désigne les Asiatiques, Mentiu ici, et vous avez deux graphies possibles. La première, qui est la plus fréquente, associe donc à ce terme un classificateur, le classificateur générique de l'homme assis qui renvoie à tout ce qui est humain de manière générale. Donc c'est un classificateur générique neutre, si vous voulez, sur le plan de la connotation. Mais dans certains cas, vous pouvez y substituer un autre signe, qui est le signe de l'ennemi couché. Et dans ce cas-là, bien sûr, au niveau linguistique, c'est toujours le même mot. Si vous devez lire ça, il n'y a pas une réalisation particulière. Mais au niveau graphique, purement, donc c'est purement visuel, vous parlez des Asiatiques, mais vous savez, c'est ces Asiatiques qui nous veulent du mal et contre lesquels nous devons quand même guerroyer quelque temps. Il y a donc là une nuance, une connotation particulière que vous avez introduite et qui ne fonctionne qu'au niveau visuel. J'en viens maintenant, je m'excuse d'être un peu rapide, mais il fallait essayer de présenter la totalité de ce schéma. Pour les écritures alors plus énigmatiques, donc deux niveaux, un niveau portant sur les signifiant proprement hiéroglyphique, un autre sur les iconèmes. Alors, voilà, ça c'est un exemple bien connu de la création, par exemple ici, des monogrammes de Senmut. Nous sommes donc au milieu de la 18e dynastie. Senmut est ce personnage bien connu, associé de près au règne de la reine Hatshepsut, et il a, il s'en explique d'ailleurs, il a créé deux monogrammes dans lesquels il associe un certain nombre de signes qui sont, une fois qu'on les lit dans le bon ordre et que bien sûr on les a reconnus, qui sont susceptibles donc de reproduire les noms de la reine. Et je ne résiste pas ici au plaisir de vous citer ce petit texte conclusif de Drioton, qui est, je crois, l'inventeur de ces deux monogrammes, parce que je crois que ça saisit un peu quelque chose de l'esprit qui devait être celui de ces Égyptiens de cour. Donc on va le lire ensemble. De plus, Senenmut avait consacré cette ingéniosité dont il était fier à mettre en monogramme les noms de sa souveraine, façon très égyptienne de lui faire sa cour. Sous d'autres cieux, et on voit à qui on pense, il aurait composé des vers à sa louange. Au pays des hiéroglyphes, un cryptogramme sans défaut valait seul un long poème. C'est une œuvre d'art en soi, digne d'être offerte au roi. Telle était donc, dans l'échelle des valeurs, la place que les anciens Égyptiens attribuaient aux compositions cryptographiques. Ils les tenaient pour les chefs-d'œuvre de la science par excellence, celle du scribe. Ils se plaisaient à les reproduire en bonne place sur le monument, comme une parure d'une qualité rare et dont, privilège apprécié dans cette société si profondément aristocratique, le sens, offert à tous, ne se laissait pénétrer que par les plus intelligents. Mais voilà aussi, et ça rejoint quelques illustrations qu'Andreas a produites dans sa présentation, voilà donc une graphie possible des noms de Russes de ces types premiers. Donc vous voyez que ça a une valeur proprement iconographique et que, évidemment, là aussi c'est écrit en clair, pas très loin de là, donc ce n'est pas cryptographique au sens de « on a voulu cacher, on a voulu cacher ». Pourquoi cacherait-on une titulature royale? En plus, on peut se le demander. Mais il y a là donc un jeu sur l'écriture. Et par exemple, pour le troisième signe, ici, celui de... Vous voyez, c'est une figure d'amont et qui doit ici s'interpréter comme en lecture, comme signifiant Nechet, le victorieux. On pourrait traduire en quelque sorte en or apollinien et avoir quelque chose comme quand ils veulent signifier la force, Nechet, ils dessinent le dieu Amon parce qu'il est celui qui donne la victoire. On pourrait avoir un texte comme ça chez Horapollon. Voici alors une autre possibilité graphique, et je contraste ici deux graphies du nom de Ptah. La première, c'est une graphie tout à fait standard, où vous avez trois unilitaires, P, T et une variété de H, et puis le classificateur du dieu assis, graphie tout à fait standard du nom de Ptah depuis les temps les plus anciens. Mais vous pouvez avoir aussi un tableau, comme vous en avez un ici reproduit, mais nous sommes beaucoup plus tard, nous sommes à l'époque gréco-romaine, où vous avez trois signes qui, assemblés, forment un tableau. Vous avez le ciel, vous avez la terre, et entre les deux, vous avez un génie primordial. En quelque sorte, vous pouvez déjà lire ce tableau comme un iconème. En quelque sorte, vous voyez qu'il y a une action qui est représentée, vous voyez qu'il y a un dieu qui, si vous connaissez un peu le mythe, sépare la terre du ciel, ce qui est un acte démiurgique par excellence. Mais c'est également susceptible d'une lecture. En effet, par procédé d'acrophonie, donc en retenant à chaque fois la première consonne radicale des trois signes que vous avez ici, dans leur lecture possible, le ciel pète, donc le P, la terre ta, et puis le génie hek, en retenant et en assemblant évidemment dans l'ordre souhaité, vous retrouvez les trois consonnes radicales nécessaires pour écrire le nom du dieu ta. Et ça aussi, en quelque sorte, on pourrait le traduire en aura paulinien. Quand ils veulent représenter le démiurge, ils dessinent un dieu posé sur la terre et soulevant le ciel, parce que c'est l'œuvre du démiurge. Ça pourrait fonctionner comme ça aussi. Alors, on pourrait encore aller, mais là, je mets quand même beaucoup de guillemets, beaucoup de points d'interrogation, vers une poésie visuelle telle que Siegfried Mohrens essaye pour l'instant de développer cette voie de recherche. Dans cette stèle conservée ici au Louvre, d'ailleurs, on a proposé de voir dans une scène qui est proprement iconographique, évidemment, de décomposer cette scène en ses éléments constitutifs et d'y associer une lecture. Donc là, on n'est même plus dans des iconèmes, mais carrément dans des iconophrases. Mais je pense qu'il y a quand même encore pas mal de problèmes qui tournent autour de ce type d'interprétation. Je le mentionne simplement en passant. Je ne suis pas sûr que la lecture proposée ici soit nécessairement correcte et la bonne, mais qu'il y ait peut-être quelque chose à tirer de ce genre de représentation est une possibilité, en tout cas, que l'on doit envisager. Je ne reviens pas, évidemment, sur cette représentation des noms de Knoum, simplement parce que je veux insister aussi dans ce genre de graphie sur la dimension proprement esthétique aussi qui pouvait animer ceux qui réalisaient ce type d'inscription. Et j'en viens ainsi à mon dernier point, qui est le symbolisme à proprement parler, où là, nous avons une rupture, si vous voulez, en ce sens que le signifiant proprement iconique, que ce soit un iconème ou un hiéroglyphe, et on verra que les deux peuvent fonctionner, on associe à ce signifiant un signifié qui n'est plus linguistique. On ne se préoccupe plus du tout d'une quelconque réalisation linguistique. Alors, c'est en quelque sorte une exploitation et une hybridation du lien métaphorique potentiel, en tout cas, qui se trouve dans certains signes. Donc, vous savez que dans les logogrammes et les classificateurs, qui sont donc les signes qui sont les plus chargés au niveau iconique et sémantique, vous pouvez avoir pour les logogrammes un lien qui est parfaitement visible et facilement interprétable. Par exemple, pour écrire le mot scribe, vous avez la palette de scribe et qui, normalement, par tout égyptien cultivé, était encore reconnaissable comme étant la palette de scribe. Mais parfois, ce lien est estompé. C'est ce qu'on appelle parfois la mort de la métaphore. Et c'est ce qui arrive, par exemple, au signe de l'abeille, qui peut servir donc à écrire le mot biti pour le roi de Basse-Égypte. La raison pour laquelle le signe de l'abeille a été choisi, c'est probablement assez rapidement perdu, d'où alors des spéculations qui peuvent alors se produire pour essayer de retisser ce lien étymologique ou ce lien étymographique entre le signe de l'abeille et ce qu'il représente. On a parlé à propos du signe de l'abeille de Horapollon, mais il y a aussi un texte d'Amien Marcellin qui est assez intéressant de ce point de vue. Pour les classificateurs, c'est la même chose. J'ai dit un mot tout à l'heure de la possibilité pour les classificateurs d'ajouter des connotations extra-linguistiques, je n'y reviens pas, mais le classificateur pouvait aussi potentiellement être exploité comme lien étymologique. Je prends ici deux exemples, le verbe « ad » avec le classificateur du crocodile et le verbe « kened » avec le classificateur du kerkopithèque, je vais plutôt m'attarder sur ce dernier. Donc, c'est un verbe en égyptien qui est bien connu, qui signifie « être irrité, s'énerver ». Et justement, nous avons une notice d'Horapollon, ce qu'il signifie en écrivant un cynocéphale, voulant écrire la lune ou le monde habité ou l'écriture ou le prêtre ou la colère ou la nage, il peigne un cynocéphale. Je m'excuse de devoir procéder un peu vite. Une notice du papyrus Jumilec, on en a parlé tout à l'heure, pour voir aussi quelle sorte de spéculation on peut avoir proprement alors à partir des graphies. Donc dans le papyrus Jumilec, colonne 6, ligne 6, il a été appelé Anubis par sa mère. Cela a été dit en raison du vent, de l'eau et de la montagne. Et vous voyez effectivement que dans les signes qui servent à écrire de manière purement alphabétique le nom de Anubis, on peut retrouver des signes et les mettre en corrélation avec le vent, l'eau et la montagne. Et ça rappelle évidemment les exploitations qui seront faites bien plus tard par Athanase Kircher dans ses fameux schématismes. Donc cette rupture qu'il y a, que l'on va se produire entre le lien linguistique, donc entre le signifiant et le signifié, a probablement, on voit qu'il y a des tendances endogènes bien sûr, mais a probablement aussi bénéficié de facteurs favorables dans un milieu qui était quand même fortement hellénisé. Et donc je voudrais souligner ici l'apport des philosophes grecs, Philon, Plutarque, notamment des philosophes néoplatoniciens comme Plotin, Jamblic, Porphyre, on les a déjà cités, mais aussi un peu antérieurement de certains historiens comme Diodore, Ammien Marcellin, dont on pourrait parler longuement, Kérémon, il y a été fait allusion, ou de Clément d'Alexandrie, mais aussi des textes un peu plus ésotériques comme le Corpus Hermétique, notamment le 16e traité, ou les traités magiques. Je voudrais aussi, alors, pour terminer, attirer l'attention sur l'importance des histoires naturelles, notamment Élien ou le Physiologus. Par exemple, Andreas a cité tout à l'heure l'exemple bien connu du lièvre. Donc, lorsque les Égyptiens veulent représenter l'idée d'ouvrir, ils dessinent un lièvre parce que cet animal dort les yeux ouverts. C'est une notice que l'on retrouve, évidemment, dans le Physiologus et dans Élien. Donc, l'interprétation purement éthologique de l'animal, reçu dans l'Antiquité tardive, était celle-là. Donc voilà l'explication, je ne sais pas dans quelle mesure l'un connaissait l'autre. Et bien sûr, les clés des songes, je n'y reviens pas ici. Bon, voilà, il y a un certain nombre de textes que l'on pourrait citer ici, d'Ammien Marcellin ou de Diodore, mais je crois qu'on n'a pas tellement le temps de le faire ici. Peut-être cette citation de Plotin qui me paraît importante. C'est ce qu'ont saisi, me semble-t-il, les sages de l'Égypte, que ce soit par une science exacte ou spontanément. Pour désigner les choses avec sagesse, ils n'usent pas de lettres dessinées qui se développent en discours et en propositions et qui représentent des sons et des paroles. Ils dessinent des images, agalmata, dont chacune est celle d'une chose distincte. Ils les gravent dans les temps pour désigner tous les détails de cette chose. Chaque signe gravé est donc une science, une sagesse, une chose réelle, saisie d'un seul coup, et non une suite de pensées comme un raisonnement ou une délibération. Et ce qui me paraît intéressant aussi, et qui doit être peut-être mis en relation avec cette notion de poésie visuelle dont je parlais il y a un moment, c'est cet extrait de Clément dans les Stromates, où il fait allusion manifestement à une représentation monumentale, mais qui peut en quelque sorte se mettre en phrase, si on veut bien y reconnaître les symboles. Ainsi écrit Clément, encore à Diopolis d'Égypte, sur ce qu'on appelle le pylône sacré, on a gravé un jeune enfant, symbole de la naissance, et un vieillard, symbole de la décrépitude. Puis le faucon, symbole de la divinité, avec le poisson, signe de la haine, et de nouveau le crocodile, il a été question d'un crocodile précédemment, mais avec un autre sens, ici l'impudence. Le tout mis ensemble, le symbole paraît, sorry pour la faute d'orthographe, le symbole paraît avoir cette signification. Ô vous qui naissez et qui périssez, Dieu est l'impudence. Donc vous avez ici une représentation proprement iconographique, mais qui, à condition de déchiffrer les symboles et les allégories qui les accompagnent, se laisse en quelque sorte paraphraser, gloser et mettre en phrase. Voilà, je ne reviens pas sur la clé des sons, j'en ai déjà parler à propos des textes proprement égyptiens, mais c'est vrai que Artémidore est un beau cas en la matière. Par exemple, quelqu'un rêva qu'il peignait l'oiseau phénix, un Égyptien prononça que celui qui avait vu ce rêve tomberait dans une telle pauvreté que son père étant mort, à cause de son extrême indigence, il chargerait lui-même sur ses épaules le cadavre et le porterait ainsi au cimetière. En effet, le phénix ensevelit ainsi son père, traduit en or apollinien, cela pourrait donner, s'ils veulent exprimer l'état de dénuement, ils représentent un phénix, ou ils peignent un phénix, parce que cet oiseau ensevelit son père en le portant lui-même au cimetière sur son dos. Je vous laisse, juste pour le plaisir, revoir ce tableau final une dernière fois. Et simplement, alors, pour dire, mais et Apollon dans tout ça, je rappelle ici la citation complète d'Hermann sur ce terrible Apollon. Donc, il déplore, Hermann, ici, que la littérature grecque la plus sérieuse concernant l'Égypte ancienne nous est pratiquement disparue pour nous. Il n'y a que ce terrible livre de Apollon qui a survécu à toutes les époques, et probablement parce qu'il est tellement terrible. Et donc, quand Apollon fait ses notices et qu'il dit, voilà, pour représenter telle idée, il dessine telle chose, parce que, mais en général, il est plus ou moins correct lorsque cela peut être mis en corrélation avec des signes, logogrammes ou classificateurs qui sont encore suffisamment transparents, lorsque la métaphore est encore suffisamment claire. Mais lorsqu'il y a une opacité du signe, et notamment lorsque on assiste à ce qu'on pourrait appeler la mort de la métaphore, généralement alors Apollon est à côté, du moins en tout cas d'après les critères qui sont les nôtres. Et c'est peut-être une clé de lecture pour essayer de voir comment Apollon a pu s'y retrouver. Et je crois qu'avec ça, oui, j'en ai terminé, et je vous remercie de votre patience et de votre bonne attention.